Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, les choses de la vie quotidienne à la sauce France Inter. Électroménager, téléviseur, smartphone, en panne, hors d'usage, juste après la garantie, avec cette pénible impression que les objets ne durent pas. Zoom ce matin sur l'obsolescence programmée. La mort programmée de nos objets est-elle vraiment une fatalité? Quelles sont les alternatives du consommateur pour tourner le dos à la société du jetable? Les industriels ont-ils réellement un intérêt à produire des objets robustes et durables? Nous attendons vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Colline et Elias attendent ce matin vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Toi, tu vas voir Howard aujourd'hui.
Ah oui, je vais lui mettre les points sur les i. C'est simple, il faudra
alors,
bien qu'il m'affecte.
Alors, n'oublie surtout pas, il faut une avance, parce qu'on a l'assurance, la prime à payer depuis déjà longtemps.
Ça fait dans les...
Ça fait 108,68, et cette fois-ci, on est un peu...
Mais pourquoi sommes-nous à court?
Ben, on a eu le moteur de la voiture.
Ah, cette saloperie de Stuart Baker.
Et il ne reste plus qu'une mensualité du réfrigérateur.
Mais il est en panne encore une fois.
Ben, il est vieux, tu sais.
Je t'avais dit qu'il fallait prendre un appareil d'une marque plus connue. Charlie s'est payé un General Electric, il a plus de 10 ans. Et il est encore bon.
Willy, s'il te plaît.
Mais qui a jamais entendu parler des réfrigérateurs Astin? Une fois dans ma vie, j'aurais aimé acheter un bon appareil et finir de payer avant la panne. J'arrête pas de me débattre. Une vraie course contre la montre pour tout. À la dernière traite, la voiture est bonne achetée. Le réfrigérateur consomme des courroies comme un fou. Ils le font exprès. Je te dis que c'est calculé exprès. Quand on a fini de payer, tout tombe en ruine.
Un extrait de Mort d'un commis voyageur de Volker Schlondorf avec Dustin Hoffman et Kate Reid. Bonjour Laetitia Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, et vous venez de publier « Du jetable au durable, en finir avec l'obsolescence programmée » aux éditions Alternatives. Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris Diderot et vous êtes l'auteur de « La société malade de l'hyperconsommation » chez Odile Jacob. Laetitia Vasseur, qu'est-ce que l'obsolescence programmée? C'est une notion qui ne recouvre pas seulement l'obsolescence matérielle.
Non, tout à fait. Donc, au sein de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, on a une vision large de l'obsolescence programmée qu'on décline en trois catégories. L'obsolescence matérielle, qui va être vraiment le fait d'avoir un procédé technique qui va réduire la durée de vie. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir changer sa batterie, c'est une obsolescence un peu matérielle. L'obsolescence logicielle, qui va être là le software, le logiciel à l'intérieur d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, qui va faire ralentir et rendre inutilisable l'appareil. Et puis enfin, l'obsolescence esthétique, qui va être plutôt sur des ressorts de mode, psychologique, marketing, design.
Alors, l'obsolescence programmée ne date pas d'hier. En 1924, les principaux fabricants mondiaux de lampes électriques sont confrontés à une chute des ventes et ils s'entendent pour limiter la durée de vie de leurs ampoules.
Oui, c'est ce qu'on appelle le cartel Phoebus qui est connu dans ce domaine-là. L'idée, en effet, c'était un modèle économique qui s'est soufflé. Donc de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas limiter la durée de vie de nos ampoules, en l'occurrence, pour pouvoir renouveler constamment les achats.
Et ce cartel a fait bien des émules depuis.
Oui, parce que depuis 1924, dans ces années-là, en effet, il y a eu beaucoup de choses et ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 60 avec un renouveau du design vraiment en vue de booster une consommation qui s'essoufflait parce que quand on a 90% des gens qui sont équipés de frigos, de téléviseurs, etc., comment on fait? Eh bien voilà, l'obsolescence programmée à ce moment-là, c'était la réponse.
Philippe Moati, c'est la société de l'hyperconsommation qui sécrète l'obsolescence programmée. C'est l'une des maladies de la société de l'hyperconsommation, l'obsolescence programmée.
Oui. Tout à fait. C'est dans la logique du système, puisque les entreprises sont toujours à la recherche de croissance. La croissance finale dépend de l'appétit de consommation, puisque la consommation est l'aboutissement du circuit économique. On peut relancer cet appétit de consommation par le haut, en quelque sorte, avec l'innovation, mais on n'a pas tous les jours des grappes de technologie qui permettent d'apporter des nouvelles fonctionnalités radicalement nouvelles, hein, qui suscitent un nouvel intérêt de la part des consommateurs. On ne va pas inventer le smartphone tous les deux jours. Hein. Et donc, entre-temps, on ne peut pas se résoudre à l'idée que la croissance est terminée, parce qu'effectivement, les gens sont déjà équipés. Donc, alors je ne sais pas si délibérément on fait en sorte que les produits tombent en panne, On en reparlera, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Mais de fait, effectivement, il n'y a aucun investissement dans la qualité parce que l'objectif, c'est quand même que les gens renouvellent le plus rapidement possible. Donc là, il y a quand même quelque part... aujourd'hui, en tout cas par rapport aux enjeux environnementaux, il y a quelque chose d'aberrant dans cette affaire, parce que finalement on n'apporte pas beaucoup plus d'effets utiles aux populations, on n'est pas beaucoup plus heureux parce qu'on change rapidement son réfrigérateur, ça n'apporte pas simplement le bien-être notable. Hein. Par contre, ça a un impact environnemental qui aujourd'hui pose vraiment problème.
Laetitia Vasseur, l'obsolescence programmée est aussi liée à notre goût pour la nouveauté, l'innovation et la distinction ?
Oui, alors il y a une part importante de ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle qui, là, est plus sur l'imaginaire collectif qu'on a sur nos modes de consommation qui ne dépend pas uniquement du consommateur parce qu'il a quand même été bien aiguillé dans ce sens-là, très incité par la publicité notamment depuis l'enfance. Donc il y a une appétence pour les produits neufs, etc., mais qui a été quand même conditionnée depuis un certain temps.
Alors Philippe Moati, l'Observatoire Société et Consommation que vous avez cofondé a mené une enquête. Pour 91% des Français interrogés, les fabricants conçoivent délibérément des produits qui s'useront ou tomberont en panne rapidement. Mais dans le même temps, nous vivons dans une société liquide qui ne favorise pas forcément la durabilité.
Absolument.
Il y a une contradiction.
Il y a une contradiction, mais qui est en chacun d'entre nous en réalité. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de support psychologique à l'obsolescence programmée. C'est que on est tous quand même à l'affût de petites choses qui renouvellent notre quotidien. La banalité est quand même un peu dure à vivre. En tout cas, dans la culture occidentale, on a besoin sans arrêt d'excitation, quoi. Donc, renouveler même un produit banal du quotidien va procurer une petite excitation, alors de très courte durée, hein, mais nous sommes complices. Nous sommes complices comme consommateurs. Force est de reconnaître que du côté des vendeurs, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour exploiter cette faille psychologique. Mais alors, quand on prend un peu de recul et qu'on réfléchit, comme quand on interroge les gens dans une enquête, on se dit, mais c'est aberrant. D'abord, je gaspille du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a une vraie conscience des enjeux environnementaux, donc on comprend bien le lien qu'il peut y avoir entre ce gaspillage et l'impact sur la planète. Et donc, les gens sont furax. Dans un contexte général, qu'on reprendra peut-être, de défiance très très forte que les consommateurs ont à l'égard des grands acteurs de l'offre, les grandes marques, les grands industriels, la grande distribution, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, si vous voulez, 91% des gens qui sont convaincus qu'on les entourloupe en faisant délibérément en sorte que les produits ne durent pas longtemps, c'est quand même un coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'on devrait réfléchir collectivement comment on peut remettre un peu tout ça dans la bonne direction.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter du quotidien. Alors cette semaine, vous vous êtes rendu dans un atelier magique qui répare les objets défectueux.
Oui, ça s'appelle les Repair Cafés en français, les cafés de réparation. Et là-bas, des bricoleurs donnent une seconde vie aux appareils cassés et en plus, ils le font gratuitement.
À tout à l'heure Antoine Lee. Et bonjour Cyril, vous appelez de Nantes. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Votre machine à laver vient de vous lâcher, c'est ça ?
Bah, écoutez, merci déjà pour vos émissions. Bonjour à tous.
Merci.
Pour la qualité quotidienne des émissions.
Merci beaucoup.
Oui, bah, l'exemple illustre parfaitement, c'est-à-dire qu'une machine vous indique un problème électrique, on vous dit qu'il faut redémarrer, puis vous redémarrez, puis finalement elle tombe en panne. Une machine qui a tout juste 6 ans, donc là, premier point, vous vous réjouissez de pas avoir pris l'extension de garantie plus 5 ans, parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est peut-être un sujet dont vous pourriez reparler également. Et puis deuxièmement, on s'étonne effectivement qu'il y a finalement relativement peu d'électronique dans ces machines. On sait que dans d'autres secteurs, notamment l'industrie, l'électronique dure plusieurs dizaines d'années. Donc on peut s'étonner que pour des quarts de quelques centimes d'euros, on n'ait pas d'électronique de meilleure qualité pour que ça dure plus longtemps, en fait, tout simplement.
Laetitia Vasseur.
Oui, bah c'est un cas récurrent. On a tous une histoire, une anecdote à raconter sur nos objets du quotidien. Là, ce que pointe Cyril, en effet, c'est sur aussi la garantie. Dans les responsables de l'obsolescence programmée, on a évoqué les fabricants, un petit peu les consommateurs, mais aussi on oublie souvent les vendeurs et les distributeurs. Et eux font tout pour éviter l'allongement de la durée de vie des produits, et notamment sur cette question de la garantie, parce que sachez que tous vos produits sont garantis 2 ans depuis la loi 2014, consommation, et c'est gratuit et légal. Et en fait, à chaque fois, on vous propose une extension de garantie payante. C'est un business très lucratif qui, dans les faits, après, il faut bien lire les petites lignes parce que bon, souvent, le service n'est pas forcément adapté. Et c'est un business derrière qui n'aide pas à l'allongement de la durée de vie des produits. Et surtout, ce qui est électrique, électronique, c'est vraiment là, l'impact est très fort en termes d'obsolescence et puis en termes de déchets.
Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir appelés. Vous pouvez également poser vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Et il est déjà temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, vous vous intéressez à l'argument publicitaire et marketing de la garantie à vie.
Vous en avez marre des produits jetables? Ces habits, ces chaussures, ces fers à repasser, ces grille-pains, que vous devez racheter encore et encore. La solution existe peut-être, les produits garantis à vie. Le couteau suisse à 30 euros, le briquet à 40 euros, ou encore le marteau à 60 euros. Ils sont censés nous accompagner toute notre vie. Promesse de fabricant. Alors la tiennent-ils vraiment? Et cela vaut-il le coup de payer plus cher?
Voilà, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de l'émission de France 2 Tout compte fait, il y a effectivement toute une série de produits qui sont désormais garantis à vie. Alors c'est vrai, ils sont plus chers à l'achat, mais la marque s'engage à les réparer s'ils cassent ou carrément à les remplacer à neuf hein, s'ils ne fonctionnent plus. Alors ça touche tous les secteurs. C'est la structure des vélos Décathlon par exemple, les couteaux suisses Victorinox, les cocottes en fonte Le Creuset, les sacs Eastpak, les vêtements de montagne Patagonia ou encore le sécateur très important Garden Factory. La garantie à vie ainsi proposée constitue donc un bon argument de vente des produits et ça contribue aussi à nouer un nouveau type de relation entre la marque et ses clients. Il ne s'agit pas de vendre plus, mais de vendre mieux.
Mais c'est aussi un nouveau type de relation avec ces objets de consommation?
Oui, c'est là une distinction essentielle. La garantie à vie ainsi proposée transforme radicalement le statut de l'objet que l'on achète. Parce que l'objet garanti à vie dure plus longtemps, il n'est donc plus consommé de la même façon que les autres, il ne disparaît pas à mesure que l'on s'en sert. Souvenez-vous, Ali, de vos cours de latin, les verbes consommer et consumer ont la même origine étymologique. Les objets que l'on achète et qui sont garantis à vie, eh ben, on les garde, on les conserve. On en revient du coup à ces objets, vous savez, d'avant la grande révolution de la consommation de masse. Pendant des siècles, les objets ont eu une durée de vie supérieure à celle des hommes eux-mêmes. Entre générations, d'ailleurs, on se transmettait des vêtements, des outils, des armes, des meubles, de la vaisselle, une montre ou même un parapluie.
Alors expliquez-nous Thibaut cet effet sur notre subjectivité.
Alors en fait aujourd'hui on cède surtout aux arguments de l'innovation ou du design. Le grand Baudrillard dans son analyse de la société de consommation indiquait que la consommation et le renouvellement des produits de consommation participaient d'une grande déréalisation du monde. À mesure que je le consomme, l'objet se consume et finit par disparaître. Les objets ne sont plus ce qu'ils sont, mais ne deviennent plus que les signes d'eux-mêmes. Et donc, si au contraire, l'objet dure plus longtemps, si je le répare, si je le conserve et que je transmets même à la génération suivante, ça participe donc au contraire d'une re-réalisation du monde. Réparer un objet, c'est donc lui conserver son objectivité et c'est aussi une manière d'entretenir notre subjectivité. En fait, sujet et objet entretiennent une relation un peu comme les deux faces d'une même pièce ou comme l'envers et l'endroit. Souvenons-nous maintenant de Descartes, vous savez, son principe fameux du « je pense donc je suis ». C'est que nous prenons conscience de nous-mêmes en doutant de l'existence des objets qui nous entourent. Et plus la réalité des objets qui nous entourent est forte, plus le doute est étendu et plus donc la prise de conscience est forte. Bref, notre subjectivité se définit en se distinguant des objets. Plus les objets sont réels, plus nous existons. C'est un peu comme sur le ring, plus l'adversaire est fort et plus la victoire est belle. Voilà, c'est un peu la conséquence métaphysique de ces objets garantis à vie. Alors l'obsolescence programmée ou simplement supposée de tous ces objets consommables dont nous nous entourons, non seulement elle nous coûte cher, non seulement elle représente une menace écologique, mais elle nous fait aussi courir un risque métaphysique. C'est celui de notre propre obsolescence à nous, non pas programmée, mais anticipée.
Commentaire Philippe Moati, Laetitia Vasseur, Philippe Moati.
Mais je trouve qu'il y a effectivement il y a quelque chose de très juste dans ce qui vient d'être dit et qui est une force de rappel dans nos réflexions sur ce sujet. C'est qu'évidemment, il y a quelque chose du côté de l'offre. Hein. Il faut absolument engager les industriels, les distributeurs à sortir de cette logique. Et là, c'est une réflexion sur les business models à mener. Il y a des pistes, on les entrevoit. Mais je pense pas que ça ira bien loin si les consommateurs ne changent pas. Parce que, effectivement, on a déjà pas mal de produits qui sont garantis soit à vie, soit sur des durées extrêmement longues. Mais ça se heurte au fait que les consommateurs aiment renouveler. Donc, tant qu'on n'aura pas changé la culture consumériste, tant que les centres de gravité des individus ne se déplacera pas vers autre chose que l'avoir, eh bien, on aura des complices du côté des consommateurs.
Laetitia Basseur.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et notre association HOP vise aussi à sensibiliser largement et à donner des clés, parce qu'il ne suffit pas juste de dire il faut consommer autrement, mais il faut proposer des alternatives près de chez soi. Mais sur la garantie, moi j'ai souvent les retours des gens qui disent mais moi je veux bien payer un peu plus cher, mais est-ce que mon produit va vraiment tenir? Et quand on a des garanties à vie, c'est très bien parce que ça offre, ça donne un lien de confiance, il y a une garantie derrière. Mais aujourd'hui, avoir des produits qui sont un peu plus chers, parfois n'est pas synonyme. Donc il faut rétablir cette information sur la durée de vie et rétablir la confiance et les garanties qui vont avec.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. La petite philo de la pub et des marques, c'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot. Nous attendons vos questions sur l'obsolescence programmée au 01 45 24 7000. La réalisation est signée Claire Destacan.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique.
Junior interprété Panique.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h26, l'obsolescence est-elle une fatalité? C'est notre thème du jour avec Laetitia Vasseur, présidente de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, et avec l'économiste Philippe Moati, l'auteur de La société malade de l'hyperconsommation. Laetitia Vasseur, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de durée de vie des objets. Alors, les consommateurs ont l'impression que la durée de vie des appareils, des objets, dure moins longtemps que du temps de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais c'est quoi la bonne durée de vie d'un objet? C'est objectivement mesurable?
Alors, on peut mesurer la durée de vie des produits par des normes et des standards. C'est une voie qui nous intéresse notamment dans l'affichage de la durée de vie. On en parlait, l'important, c'est pour guider les choix des consommateurs, c'est aussi de savoir si j'achète un produit, lequel va durer le plus longtemps. C'est aujourd'hui une information qu'on n'a pas du tout. Donc là, il pourrait avoir des standards pour mesurer cette durée de vie, pour que ce soit fait sur des standards et des normes normes égales pour tout le monde. Après, la durée de vie, c'est aussi quelque chose d'un peu psychologique, mais enfin, l'attente qu'on a vis-à-vis de cette durée de vie, le problème aujourd'hui, c'est qu'on note qu'il y a un écart entre presque de moitié. Avant, on pouvait faire des produits qui duraient dans l'équipement électrique et électronique jusqu'à 12 ans. Aujourd'hui, c'est plus entre 6 et 8 ans. Donc, on se dit, voilà, on peut aller sur la Lune, on peut faire plein d'innovations techniques et technologiques, et pourtant, nos produits durent moins longtemps. Donc là, il y a un enjeu.
Philippe Moiti.
Oui, en fait, il y a deux manières. C'est dans le cœur du modèle. Hein. Donc, si on ne touche pas au cœur du modèle, on va pas y arriver. Donc, il y a deux manières d'y parvenir. C'est de déplacer la concurrence entre les marques sur le terrain de la qualité, ou carrément de promouvoir un modèle alternatif où la rentabilité des entreprises n'est plus sur les quantités vendues, mais sur autre chose. Alors, sur le premier point, comment déplacer la concurrence sur le plan de la qualité? Il y a un terreau aujourd'hui, puisqu'encore une fois, les consommateurs, ils sont un peu ambivalents, mais ils sont quand même en attente. Il faudrait tout simplement encourager les entreprises à être mieux disantes sur la question de l'allongement de la garantie. Et donc, il y a une manière très simple de faire. Affichons le prix en divisant le prix facial par le nombre d'années de garantie. Ça nous donne une sorte de coût d'usage à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un produit qui est garanti 2 ans, s'il vaut 100, il va coûter 50 par an. Un même produit qui vaudrait 150 mais qui durerait 5 ans, c'est pas facile à calculer mentalement comme ça.
Non,
vous avez compris qu'il coûtera moins cher. Donc en fait, distinguer le prix d'acquisition du coût d'usage. Et donc plus un fabricant s'engagerait dans la durée de la garantie, plus il apparaîtrait aux yeux des consommateurs que le coût d'usage est plus bas. Et ça déplacerait la concurrence, même pour le consommateur malin qui cherche à faire des bonnes affaires, ça déplacerait la concurrence sur le terrain des prix. Donc il y a des choses à faire, Et après, plus profondément, le sésame, c'est d'arriver à changer les business models des entreprises.
Laetitia Vasseur, quels sont les objets, les appareils concernés par l'obsolescence programmée?
Alors les appareils,
je pense évidemment aux équipements électriques et électroniques.
Oui, c'est très vaste parce que nous, on s'attaque prioritairement à ce qu'on appelle les D3E, dans le jargon, c'est les déchets électriques et électroniques, qui concernent les machines à laver, les ordinateurs, même les smartphones, le petit électroménager comme la bouilloire, la cafetière. Ça, c'est en première ligne, notamment parce que ça crée des conséquences écologiques beaucoup plus fortes, et que la frustration sociale aussi de perdre sa machine à laver pour la renouveler, elle est énorme. Enfin, on n'a pas envie de changer par plaisir sa machine à laver.
Alors vous parliez tout à l'heure d'obsolescence technique, esthétique, logicielle. Les smartphones restent les cumulards de l'obsolescence. Hein.
Oui, alors les smartphones, c'est vrai qu'on les appelle les cumulards parce que ils cumulent à la fois l'obsolescence technique, donc on peut pas par exemple changer sa batterie, ou la vitre est extrêmement fragile. C'est également une obsolescence logicielle, puisque là ça va être les mises à jour qui vont le rendre inutilisable. Et puis enfin l'obsolescence esthétique, ça va être sur le design. Tous les 6 mois, soi-disant, il y a un téléphone plus beau que l'ancien. Donc et puis des campagnes publicitaires vraiment énormes, il y a juste à aller dans les gares parisiennes pour s'en rendre compte. Donc là, c'est vraiment un cumul des trois formes d'obsolescence.
Philippe Moiti, le smartphone, symbole de l'hyperconsommation et de l'obsolescence programmée?
Oui, mais en même temps, le smartphone, je l'évoquais tout à l'heure, comme une véritable innovation. On s'est rué dessus parce que ça a vraiment changé notre quotidien. Donc c'est à la fois ce que la consommation peut voir de bon, d'apporter des objets vraiment utiles au quotidien, qui créent du lien en plus entre les gens, et en même temps l'aberration d'un système économique qui mène à un gaspillage mais absolument redoutable. J'attire votre attention que ce n'est pas une fatalité. Je pense que la plupart de nos auditeurs, là, ont à leur domicile une box ADSL. On ne la change pas tous les 18 mois, la box ADSL. Mais la grande différence entre le smartphone et la box ADSL, qui pourtant est un produit technologique, c'est que la box ADSL, elle est propriété du prestataire.
Exactement.
Et on ne l'achète pas, donc on n'a pas incité à la renouveler rapidement. La rentabilité du prestataire va dépendre de la durée de vie de la box. Ça change tout.
Laetitia Vasseur.
Et je vais rebondir aussi sur les solutions, parce qu'en effet, notre ouvrage est consacré à la moitié aux
solutions. On va y revenir dans quelques instants.
Mais sur les smartphones, en l'occurrence, en effet, il y a l'économie d'usage dont on vient de parler, qui est une bonne solution. Et puis il y a d'autres techniques, par exemple les Fairphones. Eux, bien sûr, le smartphone est une innovation, mais les innovations peuvent accompagner la durabilité. Dans les Fairphones, tout est modulaire, le design
c'est quoi les
Fairphone, c'est une marque, je crois, néerlandaise, si je ne dis pas de bêtises, qui, donc européenne, qui fait des téléphones modulaires. C'est-à-dire que la vitre, si jamais il y a un souci, on peut la changer sans avoir à changer tout le téléphone. Ou on peut imaginer que l'appareil photo n'est plus assez performant, donc on change seulement cette pièce-là. Ou la batterie est complètement accessible. Voilà, c'est des petites choses qui permettent d'améliorer.
Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Anne-Marie ?
De Villeneuve-les-Avignon.
Alors, vous avez une machine à laver qui date un petit peu et qui fonctionne toujours, c'est ça ?
Ah ben, dans la famille, on a une machine à laver mythique. J'ai 70 ans. Mm-hmm. J'ai acheté cette machine, j'avais 27 ans, avec les primes maternité que j'ai touchées à la naissance de mon fils aîné. Mm-hmm. Et donc, il y a plus de 40 ans aujourd'hui, et cette machine tourne toujours. C'est une machine à laver, donc... Qui nous a rendu bien des services quand on était une famille de quatre. Et maintenant, elle est dans la maison de campagne des enfants. Et elle fait une lessive par jour quand tous les cousins, neveux, nièces sont là. Et elle tourne toujours. Et j'ai fait dessus une réparation de 150 € pour changer la pompe. Enfin, 150 francs, pardon. C'était des francs à l'époque pour changer la pompe. C'est tout.
Alors, d'après le magazine UFC Que Choisir, le lave-linge serait programmé pour tomber en panne au bout de 2000 à 2500 cycles, soit 10 ans d'utilisation. Là, Anne-Marie, elle explose les records, là, avec sa machine qui date des années 70.
Oui, c'est souvent un retour qu'on a des personnes qui nous disent la machine de ma grand-mère ou ma machine a duré éternellement et je comprends pas pourquoi celle que j'ai achetée il y a 2 ans elle est déjà en train de ramer. C'est vraiment quelque chose qu'on observe. Alors est-ce que pour autant on doit dire c'était mieux avant? Nous on a envie de dire ce sera mieux demain, parce que en effet il y a certains produits comme les voitures ou certains frigos, des choses comme ça, qui consomment peut-être beaucoup plus qui consommaient beaucoup plus dans le passé, et aujourd'hui il y a des innovations sur l'aspect environnemental. Mais cette innovation, elle doit aussi s'accompagner avec la durabilité. Si avant on savait faire des produits qui durent, aujourd'hui on doit savoir en faire qui durent et en plus qui soient positifs d'un point de vue environnemental.
Merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir appelé.
Alors, pour en finir avec les collants qui filent, infaillible, le collant qui ne file pas. Extrêmement fin, il dure pourtant 10 fois plus longtemps. Donc, il est 10 fois plus économique. Collant infaillible, l'innovation.
Alors, arrêtons-nous sur les objets non technologiques, comme les poêles, les fermetures éclairs, mais aussi les collants qui sont frappés d'obsolescence programmée. À l'origine, Laetitia Vasseur, le nylon, c'est une matière ultra résistante.
Oui, en effet, l'obsolescence ne concerne pas que les produits électriques et électroniques. On a fait une campagne sur les collants qui démontre que déjà une grosse frustration des femmes, et ça, vous n'avez qu'en parler autour de vous pour le comprendre, parce que là, je suis entourée d'hommes, mais souvent, c'est un problème.
Qu'est-ce que vous en savez? Je porte peut-être des collants.
peut-être. Mais en tout cas, pour les personnes interrogées, hommes et femmes, en général, entre 2 et 5 utilisations, donc on le porte entre 2 et 5 fois, il est filé.
Pour près de 70% des personnes que vous avez interrogées.
C'est ça. Ouais. Alors que normalement, le nylon est une matière très résistante. Les premiers collants étaient même incassables. Et vu le succès de cette résistance, il a été mis des éléments chimiques pour limiter la durée.
Oui, c'est l'entreprise Dupont de Nemours qui décide de repenser la formule chimique du bas nylon. Philippe Moati.
Ben voilà, on est au cœur du problème. Encore une fois, c'est pas... On peut établir des lois, on peut condamner, etc. Au bout du bout, on retrouve la logique du capitalisme, en réalité. Donc, si on veut vraiment venir à bout de cette pratique qui, effectivement, aujourd'hui, est insupportable, on doit se poser des questions peut-être plus fondamentales sur comment on réoriente la logique économique globale du système. On est encore héritier d'un modèle qui nous vient des 30 Glorieuses, un modèle industriel où la croissance économique était portée par notre capacité à produire des objets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la finalité de l'activité économique et de la consommation n'est pas d'accumuler des objets, c'est pas d'avoir. C'est d'être, c'est de régler des problèmes, c'est de transformer les personnes. Donc si on arrive à déplacer le curseur des moyens vers la finalité... Alors peut-être qu'on peut imaginer un modèle économique prospère pour les entreprises, mais qui évite ces abus et notamment qui soit plus compatible avec les enjeux du développement durable. C'est un énorme challenge.
À Allez, nous attendons vos questions sur l'obsolescence programmée au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com à suivre le reportage d'Antoine Lee.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be cross, try to be boss, they wouldn't do. For nobody else gave me a deal. With all your faults, I love you still. Baby, it had to be you, wonderful you. Had to be you.
Harry Connick Jr. sur France Inter à 10h39.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
L'obsolescence programmée est-elle une fatalité? C'est notre thème du jour avec Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, et avec l'économiste Philippe Moati, l'auteur de La société malade de l'hyperconsommation. Bonjour Marlène.
Oui, bonjour à tous.
Vous appelez du Pays Basque. Vous appelez du Pays Basque, bienvenue.
J'appelle du Pays Basque, j'appelle de Mauléon en fait.
Très bien. Alors pour vous, il y a deux catégories de personnes.
Mais c'est qu'il y a, enfin, moi je vais vous juste dire mon expérience personnelle. Je travaille chez les à domicile, chez les personnes, et en fait, et il m'arrive des fois voilà, de récupérer des bouilloires parce qu'ils me disent non, elles ne fonctionnent plus. Et en fait, en y regardant de plus près, en fait, elle est réparable. Donc j'arrive en fait à bidouiller, à leur ramener réparer. Non, non, ça ne les intéresse plus. Ils ont acheté une autre plus récente avec des couleurs plus vives. Donc du coup, vous n'avez qu'à les donner. Donc c'est vrai que j'ai la possibilité après d'avoir du matériel donc réparé, donc je peux donner à des gens qui n'ont pas la possibilité d'en acheter. Et qu'il y a des fois des moments où ça me fait râler parce qu'il y a des fois des petits c'est des petites réparations à faire. Mais comme aujourd'hui le constructeur moule tout est dans des caches en fait, on oublie de carrément casser la coque, casser l'appareil pour pouvoir réparer ne serait-ce qu'un petit contacteur. Et ça des fois ça fait râler quoi. C'est juste ça mon intervention.
Merci beaucoup Marlène de nous avoir appelé du Pays Basque. Laetitia Vasseur, quelles sont les solutions pour sortir de l'obsolescence programmée? Je pense à la règle des 3 R. Réemploi, recyclage, réparation.
Oui, mais Marlène a eu un très bon réflexe, comme Anne-Marie précédemment, c'est le réflexe de la réparation. Aujourd'hui, c'est vraiment un des réflexes qu'il faut avoir, c'est avant de se dire, voilà, mon produit va à la benne, c'est est-ce qu'on ne peut pas le réparer? Donc aujourd'hui, il y a des solutions. C'est vrai que la réparation souvent coûte plus cher que l'achat d'un œuf, c'est un problème récurrent, mais aujourd'hui, grâce au Repair Café, donc on va faire un petit reportage, c'est une bonne solution, parce que là, il y a des gens qui savent bricoler autour de nous aussi, hein. Donc des gens qui peuvent nous aider à réparer gratuitement. Il y a aussi des tutoriels en ligne et nous on réclame l'accessibilité aux pièces détachées. Là Marlène nous a donné un cas évident d'obsolescence programmée matérielle. Quand c'est moulé pour ne pas être réparé, c'est un vrai problème. Donc il faut vraiment tout faire pour que les produits soient davantage réparables.
Anthony, vous êtes rendu dans un atelier magique qui redonne vie aux objets défectueux.
Oui, on en a parlé, hein. Donc c'est le Repair Café, en français les cafés de réparation. C'est une écologiste néerlandaise qui a inventé ce concept il y a 8 ans. Alors, le principe est simple, hein, des bricoleurs expérimentés vous aident à donner une seconde vie à vos appareils cassés.
Et vous êtes rendu au Repair Café de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne. Il en existe d'ailleurs plusieurs en France.
Ouais, c'était ce week-end, hein. 30 personnes sont venues avec leurs ordinateurs, machines à pain ou encore fer à repasser sous le bras. Et avant de rencontrer les 6 bricoleurs réparateurs, ils ont eu droit à un petit café et des gâteaux, car avant tout, c'est un lieu de convivialité et d'échange.
Alors, expliquez-moi ce qui se passe.
C'est un nettoyeur vapeur et il ne s'allume pas.
Vous l'avez depuis combien de temps cet appareil ?
2 ans.
Ah, c'est pas vieux quoi, hein ?
C'est ça, hein, maintenant, c'est du consommable. On dépense, on jette, on pollue.
Est-ce que vous trouvez que les appareils sont moins costauds qu'avant ?
Ils sont pas faits pour être réparés.
C'est-à-dire ?
Bah, ils sont fabriqués d'une façon économique, mais pas conçus pour être réparés.
De plus en plus, on a des appareils où les tournevis n'existent pas.
Ah oui, avec des vis
spéciales qui ont été faites, en fait, et qui sont faites pour être vissées, mais pas dévissées. On en a même où il n'y a pas de vis, parce que tout est, en fait, c'est collé, c'est fait pour pas qu'on ouvre. Donc une fois comme ça, on a eu un sèche-cheveux, bah le réparateur, donc il était collé, il n'y avait pas de vis, on ne pouvait pas le démonter, il ne fonctionnait pas. La personne nous l'a apporté. Au début, on s'est dit, bah non, on ne va pas pouvoir réparer tout ça. Puis le réparateur, il a dit, attends, j'ai une idée. Il a pris une meuleuse, il l'a découpée, il a réparé à l'intérieur ce qui n'allait pas, parce qu'en fait, c'était juste une soudure aussi, pareil. Puis après, il a recollé ce qu'il avait décossillé, quoi.
Bon, alors, elle veut plus marcher, votre machine à pain ?
Elle veut plus marcher, plus de pain possible. C'est le pétrin qui ne tourne plus.
Bon, alors, il faudrait une pince pour ouvrir le circlips.
Et vous voulez pas acheter une nouvelle machine à pain ?
Non, parce qu'on en mange de trop, sinon.
Le but ici, c'est d'éviter de mettre bêtement à la déchetterie. C'est pour lutter contre le gâchis ou l'obsolescence programmée. Alors, bien souvent, il suffit d'ouvrir et puis des fois de changer un condensateur, de changer 3 fois rien.
L'obsolescence, c'est normal, mais programmée, ça ne l'est plus.
Le problème aussi, c'est que la graisse, ça devient comme de la colle en vieillissant.
Oui.
Touché, là, il est beaucoup moins dur.
Peut-être que ça va aller. On essaye.
On va croiser les doigts.
Allez, allez-y.
Alors, marche.
Voilà, ça marche.
Ça marche, ça marche.
Miracle.
Oui.
Non, pas miracle.
Attendez,
technique. C'est l'art du technicien.
Lilian Braillat, c'est vous qui avez monté ce Repair Café. Est-ce qu'il y a une garantie de résultat lorsqu'on vient chez vous ?
Alors non, il n'y a pas garantie de résultat parce qu'on n'est pas un service après-vente. Parce que si on est assimilé à un service après-vente, les usagers qui viennent, ils vont attendre un résultat qu'on n'est pas forcément capable de leur donner. Nous ne sommes que des bricoleurs bénévoles.
On n'est pas payé du tout, c'est pour le plaisir qu'on fait ça.
Ouais, vous aimez ça, vous. Vous aimez...
J'ai fait pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé en maintenance dans une grande société.
Expliquez-moi ce qui se passe.
Ben, c'est la fiche qu'on met dans l'ordinateur, là, pour quand on le branche, qui ne tient plus. Et donc, il s'éteint tout seul par moment, comme ça, quand on est en train de travailler dessus.
Pourquoi vous n'en achetez pas un autre ordinateur, madame ?
Ben, ça coûte cher, quand même. Faut bien, pour un ordinateur comme ça, il faut compter plus de 400 euros. Et là, je peux pas mettre 400 euros dans un ordinateur neuf. C'est écologique, quelque part. Ça évite de jeter beaucoup de choses. Si on peut les faire vivre plus longtemps, pourquoi pas ?
Reportage signé Antoine Lee.
Et pour en savoir plus sur les Repair Café, rendez-vous sur le site de Grand Bien Vous Fasse, nous faisons le lien.
Laetitia Vasseur, commentaire, Philippe
oui,
Moiti.
En effet, sur la réparation, c'est vraiment quelque chose d'important et ça montre que l'obsolescence programmée est aussi sociale. Parce que non seulement il y a du pouvoir d'achat en moins, mais aussi c'est une question de savoir populaire qui se perdent. La réparation, c'était le bricolage, c'était quelque chose de...
La couture.
Voilà, de do it yourself, maintenant on appelle ça, c'est fashion, mais c'est quelque chose qui était là de manière très courante. C'est des savoirs populaires qui sont en train de se perdre parce que les appareils ne sont pas réparables. Donc là, c'est vraiment un enjeu aussi social.
Philippe Moiti.
Je confirme d'une part qu'il y a une vraie volonté de faire. On vient de produire un observatoire du faire et les Français sont massivement engagés dans des activités où ils font quelque chose avec leurs mains, avec leur tête, etc. Ils aiment produire, on se réalise en faisant, il y a la fierté du résultat.
Exactement.
Et dans les moments où on commence à douter un peu de qui on est et où on va, ça consolide la personne. Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus. On pouvait bricoler sa voiture il y a 20 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même très très difficile d'intervenir sur sa voiture. Je ne parle pas d'intervenir sur l'ordinateur. C'est quand même, les produits gagnent en technicité et ça devient quand même compliqué pour les particuliers de pouvoir réparer, alors, sauf des produits très, très, très standards, très banals. Hein. Et par ailleurs, il y a quand même la logique économique qui joue contre la réparation, parce que la production bénéficie de gains de productivité continue grâce à l'automatisation des processus de production. La réparation est essentiellement un travail manuel. Donc on aura quand même toujours une balance défavorable. Le coût de la réparation par rapport au coût du produit, eh ben, au cours du temps, l'écart n'a pas cessé de s'étendre. La solution, c'est sans doute, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Laetitia, c'est la modularité de la conception des produits. C'est-à-dire faire en sorte qu'un produit, c'est toujours des éléments qui interagissent les uns avec les autres. Aujourd'hui, ils sont complètement imbriqués, on n'arrive pas à les distinguer. Si par des normes réglementaires, un peu comme c'est le cas dans l'informatique aujourd'hui, hein, on était capable de se mettre d'accord sur des normes qui régissent les interactions entre les éléments d'un produit, on pourrait faire en sorte que chaque élément ait sa vie propre en quelque sorte. Et quand le produit tombe en panne, eh bien on peut accéder aux différents éléments du système et ne changer que ce qui est nécessaire. Et donc même si cet élément on le jette parce qu'on ne sait pas le réparer, ben on ne jette pas tout le produit, on jette juste l'élément défectueux.
Bonjour Alain Potreau.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la satisfaction client et de l'après-vente chez Seb. Votre groupe a décidé de garantir à vie le petit électroménager. Vos concurrents un peu cyniques doivent se dire que vous vous tirez une balle dans le pied.
Alors c'est effectivement un changement de business model. Le groupe Seb, pour le rappeler, c'est le premier fabricant de petits électroménagers aujourd'hui, avec des marques connues en France comme Tefal, Rowenta, Moulinex.
Oui, Calor, merci pour Pouf. Les marques. Bon, et, ouais. quel est le modèle économique de cette initiative, Alain Potreau?
Le modèle, c'est de remplacer du remplacer plus vite, qui effectivement était devenu un peu un standard, à remplacer le plus tard possible, en restant satisfait et fidèle à sa marque. C'est donc de la fidélisation sur le long terme et se dire qu'on va conserver les consommateurs sur de nombreuses années. Et c'est également un modèle aujourd'hui qui permet pour nous de gagner des parts de marché avec des consommateurs qui choisiront nos produits en connaissance de cause, en sachant qu'ils pourront l'utiliser plus longtemps.
Comment ça fonctionne concrètement ?
Alors concrètement, c'est une stratégie qu'on a mis en place il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. On est parti de la cocotte minute, ce qui est un produit typique que les consommateurs ont 20, 30, 40, 45 ans chez eux, en se disant qu'il n'y avait pas de raison que l'électroménager, on le change et qu'on le remplace pour rien. Donc on a commencé par travailler sur la conception des produits, leur design, et j'ai bien aimé les commentaires précédents. Clairement, on a travaillé sur la modularité des pièces, que chaque pièce, le plus petit sous-ensemble, puisse être remplacé individuellement, qu'on n'ait pas besoin d'outils, que ce n'est plus des pièces soudées, mais des pièces ou collées, des pièces qui vont pouvoir toutes être changées. Et on a donc rendu le produit réparable. Ça signifie une évolution industrielle, une évolution de nos produits. Il faut avoir en tête que près des deux tiers de nos produits sont fabriqués par nous et les autres sont dessinés par nous, ce qui est évidemment un point important pour aller dans cette voie. Et puis on a travaillé sur la disponibilité des pièces détachées, les rendre disponibles très très longtemps et surtout les rendre disponibles au prix le plus bas possible. Il y avait le non-sens qu'on trouve dans beaucoup d'industries, d'avoir des pièces détachées qui sont trop chères et finalement qu'on ne peut pas utiliser. Et donc les rendre disponibles très longtemps, et nous on s'engage effectivement à les avoir en stock pendant 12 à 15 ans, voire aujourd'hui avec de nouvelles technologies comme l'impression 3D, à les refaire à la demande. Et tout ça nous a amené à avoir des produits finalement très réparables. Aujourd'hui, l'évolution, c'est qu'un consommateur puisse savoir que certains produits vont pouvoir être réparés, s'assurer qu'il aura une durée d'usage forte, et ça, c'est par de la communication, par exemple avec un logo, produit réparable 10 ans.
Votre regard, Laetitia Vasseur, Philippe Moiti, sur cette initiative ?
Oui, je pense que l'initiative va dans le bon sens, d'avoir des produits plus réparables qui sont conçus pour être réparables, pour aller vers une satisfaction client, je pense que c'est une bonne logique. Après, il faut aussi que ces produits soient durables et non seulement réparables, robustes, mais c'est une bonne chose. Et au-delà de la réparation, les bons réflexes vont être aussi du coup de s'informer en tant que consommateur, de demander un peu en amont, est-ce que mon produit est réparé plus longtemps, est-ce qu'il sera réparable, quels sont les engagements de l'industriel sur ces questions. Également de réemployer une fois qu'on veut s'en séparer. Et des produits qui sont réparables vont être plus facilement réemployables.
Philippe Moati.
L'initiative de Seb est remarquable. Ça prouve que c'est possible de faire du business en étant responsable. Alors évidemment, là, c'est un axe de différenciation par rapport aux concurrents. Donc, l'autre démarche, hein, c'est de changer les obligations réglementaires. Enfin, moi, je milite, et je sais que vous aussi, pour étendre très sensiblement la durée légale de la garantie par étape. D'abord 5 ans, et puis pourquoi pas 10 ans. Si les industriels étaient obligés de garantir 10 ans leurs produits, je peux vous garantir que la conception des produits serait différente, parce qu'ils se ruineraient à force de devoir remplacer le produit défectueux auprès du consommateur.
Merci beaucoup Alain Potreau. Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. Pulse sur France Inter à 10h53.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
L'obsolescence programmée est-elle une fatalité? C'est notre thème du jour avec Laetitia Vasseur, présidente, plutôt déléguée générale de l'association Halt à l'obsolescence programmée, et puis avec l'économiste Philippe Moati, l'auteur de La société malade de l'hyperconsommation. Alors, on a évoqué la réparation comme piste pour tourner le dos à l'obsolescence programmée. D'autres pistes, Laetitia Vasseur, je pense au réemploi des objets.
Oui, alors vers le réemploi.
Aux produits reconditionnés.
Oui, tout à fait. Y a un business qui se développe sur le remanufacturing ou le réemploi. Donc là, ça offre beaucoup d'emplois aussi, parce que quand on parlait de modèle économique, derrière la réparation, le réemploi, ça offre beaucoup d'emplois dans ce secteur-là. Les ressourceries, ça se développe auprès de chez vous. Donc il y a
C'est quoi les ressourceries ?
Les ressourceries, c'est souvent des objets où on peut ramener des produits dont on veut se séparer ou qui ne sont en panne, et les bénévoles des ressourceries vont essayer de les réparer et puis de les revendre, mais vraiment à un prix modique. Donc si vous avez besoin d'un appareil neuf par exemple, allez voir du côté des ressourceries, parce que ce sera beaucoup moins cher. Et puis là, comme on est en pleine période électorale, nous on a proposé un plaidoyer avec un programme d'action sur 5 propositions phares qu'on demande aux candidats de s'engager sur la durabilité des produits, qu'on décline en 25 propositions très précises que vous pouvez retrouver sur notre site haltobsolescence.org.
Et la location, c'est aussi une piste ?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie d'usage. La location, c'est quelque chose de très intéressant, puisque, en effet, si l'entreprise garde la main sur le produit, s'il en reste propriétaire et vous êtes locataire de cet usage, il aura intérêt à ce que la machine dure, parce que lui, si la machine tombe en panne ou est défaillante, c'est lui qui va devoir la renouveler dans son parc de produits. Donc c'est une voie d'avenir pour des modèles plus durables, a priori.
Philippe Moati.
C'est même plus que la location. C'est prendre en charge, c'est revenir à la finalité de la consommation, c'est-à-dire apporter une solution des catégories de problèmes que se posent les gens. On a tous un exemple sous les yeux. J'ai un problème de mobilité automobile en ville. Eh bien, jusqu'à maintenant, on me vendait une bagnole et puis je me débrouillais avec. Et la voiture avait une durée de vie relativement limitée parce que c'était dans le business model du constructeur automobile. Aujourd'hui, on nous propose des solutions intégrées où vous avez accès à une voiture, à des espaces de stationnement, à un système d'information qui permet de vous localiser, etc. Et effectivement, vous avez reconnu évidemment le modèle Autolib. Vous avez remarqué que depuis qu'elles ont été mises sur le marché, on n'a pas changé le modèle. Elles sont toutes grises, il n'y a pas d'effet de mode là-dessus. Parce qu'effectivement, le prestataire reste propriétaire des véhicules et il a tout intérêt à faire en sorte que ça soit plus durable et recyclable en fin de vie. Donc on prend en charge globalement un problème pour le compte des clients. J'ai remarqué que finalement, se déplacer en ville avec Autolib, c'est plus pertinent que de se promener en ville avec sa propre voiture. Donc, on apporte une meilleure solution au problème des clients et on a un modèle économique qui peut être rentable. Alors, ce n'est pas le cas pour Autolib, mais intellectuellement, ça pourrait être rentable et c'est vertueux sur le plan environnemental. On commence à voir ça dans l'habillement. Comment on arrive à concilier la frivolité de la mode qui impose de changer rapidement avec les enjeux du développement durable? Eh bien, on vend pas des vêtements, on prend en charge le look de la personne et on lui fournit des vêtements qu'on récupère et qu'on remet en circulation. Des expérimentations ont déjà lieu en la matière actuellement.
Pour conclure, tourner le dos à l'obsolescence programmée, c'est peut-être mieux consommer et mieux vivre avec moi, Laetitia Vasseur.
Oui, c'est ça.
C'est le plaidoyer de votre ouvrage.
Hein. En effet, on finit sur cette note dans l'ouvrage du jetable au durable, parce que à la fois il faut convaincre et engager les industriels à aller davantage dans cette voie, mais aussi il faut prendre du recul par rapport à nos modes de consommation. Parfois, certaines personnes font des choses très bien. On a entendu de la réparation, c'est des bons réflexes, et il faut aller davantage là-dedans et puis se demander quand on veut acheter quelque chose de neuf si on le fait vraiment en toute conscience où on est conditionné pour le faire et essayer de prendre un peu de distance.
Philippe Moitié, un mot de conclusion?
J'adhère à cette idée. Je pense que c'est le titre de mon bouquin. La société occidentale, les sociétés occidentales sont malades de l'hyperconsommation. Là, on a beaucoup parlé de l'aspect strictement environnemental, gaspillage à tous les niveaux, mais c'est plus fondamental que ça. Une société qui est à ce point centrée sur la consommation et qui fait que les citoyens sont d'abord des consommateurs, eh bien, elle souffre de nombreuses pathologies. Ce dont il faut qu'on se soigne, c'est de prendre notre distance par rapport à la place que prend la consommation dans nos vies individuelles et collectives et comprendre que la vraie vie, elle est ailleurs, elle est moins dans l'avoir, elle est plus dans l'être et dans le faire.
Merci beaucoup Laetitia Vasseur, je recommande très vivement Du jetable au durable, En finir avec l'obsolescence programmée aux éditions alternatives, et je recommande également La société malade de l'hyperconsommation chez Odile Jacob. Demain on se demande pourquoi nous envions autant les autres avec le neuropsychiatre Jean-Michel Hougourlian, disciple de l'anthropologue René Girard. À la technique ce matin, Patrick Henry et Clément Vuillet. À suivre la bande originale de Nagui.